Chers amis, bonjour. Vous êtes à l'écoute d'un programme de méditation biblique présenté par Jacques Marchal. Notre grand idéal est de restaurer le christianisme du Nouveau Testament dans toute sa limpidité, toute sa simplicité originelle. Mais cela ne peut être réalisé sans l'application stricte de certaines règles d'étude de la Bible. Pour comprendre cet appel à une restauration totale, il faut tout d'abord reconnaître qu'il s'agit à la base d'une question de foi pure. La Bible dit bien « la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu ». Dieu a parlé à l'homme en matière de foi et c'est cela qui l'a façonné, rien d'autre. Ensuite apparaît le domaine de l'opinion qui concerne les sujets sur lesquels Dieu ne s'est pas spécialement étendu dans les Écritures. En matière de foi, l'unité est essentielle. Quant à ce qui concerne l'opinion, la liberté doit régner par-dessus tout. Et l'amour absolu doit diriger les esprits. Si l'on veut saisir le message de la Bible, il est primordial de comprendre la loi de l'exclusion. Cela veut dire que lorsque Dieu donne une marche à suivre, que celle-ci exclut d'office toutes les autres. Dieu donna un jour un ordre à Noé. Fais-toi une arche de bois de bouffée. Tu disposeras cette arche en cellule et tu l'enduiras de poids en dedans et en dehors. Le poids de gonflée, mentionné dans ce passage de la Genèse, excluait d'office toutes les autres sortes de bois. Et Noé aurait désobéi au Seigneur en utilisant d'autres bois pour la construction de l'arche. Cette même loi d'exclusion nous fait connaître avec certitude le genre de pain à utiliser lors de la Sainte-Cène. C'est lors de la célébration de la Pâque juive que Jésus prit du pain pour le tendre à ses apôtres. Et le livre de l'Exode stipule avec précision quel genre de pain devait être mangé au cours de cette fête commémorant la sortie d'Égypte. Pendant 7 jours, vous mangerez des pains sans levain. Dès le premier jour, il n'y aura plus de levain dans vos maisons, car toute personne qui mangera du pain levé du premier jour au 7e jour sera retranchée d'Israël. Jésus a réellement utilisé le pain de la Pâque. Et bien qu'il ait donné à sa consommation une signification entièrement nouvelle, il n'en demeure pas moins vrai qu'il s'agissait de pain sans levain. Ceci exclut donc tout autre type de pain dans la célébration de la scène qui maintenant et conformément à ce qu'il a commandé est un mémorial du corps de Christ. Dans sa parole, Dieu nous décrit le baptême comme étant un ensevelissement. Paul dit en effet, ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est dans sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts pour la gloire du Père, de même nous aussi nous marchions en nouveauté de vie. Ceci représente donc un véritable ensevelissement dans l'eau. Jean-Baptiste baptisait à Aenon, près de Saline, parce qu'il y avait là beaucoup d'eau. Jésus, après son propre baptême, sortit de l'eau. Ce fut le cas du trésorier de la reine Candace qui, avec Philippe, descendirent tous deux dans l'eau, puis en ressortirent. Et tout cela nous démontre qu'au temps aux apostoliques, le baptême était bien un ensevelissement. Une fois de plus, toute autre forme de baptême est exclue. Asperger ou verser de l'eau sur celui qu'on veut baptiser ne ressemble en rien à un véritable baptême, et on le sait. Dieu choisit la musique vocale pour que chacun puisse l'adorer. En Éphésiens, il nous dit à ce sujet, « Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. » Et l'Épître aux Colossiens abonde dans le même sens, « Que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse, par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs sous l'inspiration de la grâce. » Il est donc évident que la musique vocale exclut tout autre genre de musique dans le culte que nous rendons au Père. Tout cela s'accorde parfaitement avec les enseignements de Jésus-Christ. Ajouter des instruments de musique au chant vocal et désobéir à Dieu et fouler aux pieds ses instructions. De même qu'il eût été mal d'employer un autre bois pour construire l'arche, de même nous péchons en adorant Dieu d'une autre manière qu'il le désire. Comme nous venons de le voir, il est primordial que tout ce que Dieu dit soit respecté à la lettre. l'Église n'échappe pas à cette règle fondamentale. Elle doit être en tout point semblable à celle que Jésus a bâtie, telle qu'elle est révélée dans le Nouveau Testament. Il faut faire ce que l'Éternel dit à l'exclusion de toute adaptation, aménagement et autres transformations. Dès le début de la création, il avait déjà rejeté l'offrande faite par Caïn, tandis qu'il jetait un regard favorable sur celle d'Abel. L'Éternel n'éprouve aucune sympathie pour celui qui lui offre ou qui fait ce qui n'est pas conforme à ce qu'il ordonne. Dans l'Ancien Testament, un récit particulier exemplifie de manière parfaite. Les fils d'Aaron, Nadab et Abihu, prirent chacun un brasier, y mirent du feu et posèrent du parfum dessus. Ils apportaient devant l'Éternel du feu étranger, ce qu'il n'avait pas ordonné. Alors le feu sortit de devant l'Éternel et les consuma. Ils moururent devant l'Éternel. Lorsqu'un entrepreneur construit une maison, l'architecte vérifie au fur et à mesure de l'avancement des travaux si tout est conforme à ses plans et à ses directives. Si tel n'est pas le cas, il exclut d'office et fait procéder à une démolition immédiate des parties litigieuses. Un jour, le grand architecte de l'univers inspectera les églises existantes. Si elles ne correspondent pas à sa volonté, elles seront, elles aussi, exclues, rejetées, sans pitié aucune. Les assemblées de l'Église que Jésus a fondées doivent être semblables au dessein divin, c'est-à-dire au Nouveau Testament. Et cela en origine, non organisation, gouvernement, culte, plan de salut, etc. Jésus est le chef de toutes choses en ce qui concerne l'Église. Et l'Épître aux Éphésiens dit bien que Dieu a tout mis sous ses pieds et l'a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Le fait que nous ayons un modèle, un exemple à suivre, est basé sur une nécessité absolue, largement démontrée par les multiples erreurs commises par l'homme depuis sa création. Le prophète Jérémie et le livre des Proverbes enseignent avec une sagesse extrême que la voie de l'homme n'est pas en son pouvoir. Ce n'est pas à l'homme quand il marche à diriger ses pas. Quand passe le tourbillon, ainsi disparaît le méchant, mais le juste a des fondements éternels. Telle voie paraît droite en un homme, mais son issue, c'est la voie de la mort. C'est pourquoi l'homme est condamné d'emblée s'il ne suit pas fidèlement le plan divin qu'il lui avait donné. Lorsque la nation d'Israël errait dans le désert, Dieu l'a dirigée en la faisant précéder d'un nuage de fumée le jour. Quand ce dernier s'arrêtait, une colonne de feu brillait au-dessus d'eux durant la nuit. Les Hébreux devaient suivre le nuage où qu'il aille et s'arrêter là où il restait immobile. Ceci nous montre que Dieu désire nous diriger dans chaque chose. Il le fait aujourd'hui par sa parole. Tout ce que l'Éternel ne nous indique pas quant à la conduite de notre vie spirituelle doit être exclu sans hésitation. Un principe directeur doit être observé par chaque vrai chrétien. Parler quand la Bible parle et se taire quand elle demeure elle-même silencieuse. J'aimerais maintenant vous lire certains passages ou expressions données par les Écritures. 1 Pierre 4, 11. Si quelqu'un parle, que ce soit comme annonçant les oracles de Dieu. Tite 2, 7 à 8. Donnant un enseignement pur, digne, une parole saine, irrépréhensible, afin que l'adversaire soit confus, n'ayant aucun mal à dire de nous. 2 Timothée 1, 13. Retiens dans la foi et dans l'amour qui est en Jésus-Christ le modèle des saines paroles que tu as reçues de moi. Apocalypse, chapitre 22, verset 18. Je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre. Et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de la vie et de la ville sainte décrite dans ce livre. Galates 1:9. Si quelqu'un vous annonce un autre évangile que celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème. 2 Jean 9. Quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de Christ n'a point Dieu. Celui qui demeure dans cette doctrine a le Père et le Fils. Même à notre époque, le chrétien possède un Dieu parfait à adorer. une Bible parfaite à étudier, à méditer, à pratiquer, un Christ parfait à suivre. Une Église qui, si elle est basée sur les enseignements du Nouveau Testament, est également sans faille. Le chrétien se dirige alors vers une vie parfaite. Mais pour cela, il faut suivre la Bible, et rien que la Bible. Autrement dit, se conformer au plan divin que l'Éternel nous destine. Tout le reste repose sur une loi qui coule de source pantéologique, celle de l'exclusion. Exclure tout ce que Dieu ne nous demande pas, exclure de nos vies, de nos esprits, de nos pratiques, tout ce qui n'est pas conforme à la volonté divine. Je ne puis résister au désir de vous lire ici le texte d'un cantique spirituel. La parole du Seigneur est la source jaillissante où peut toujours notre cœur étanger sa soif ardente. Mon Dieu du livre sacré répand la grâce infinie, conduit tout cœur altéré à la fontaine de vie. C'est un flambeau dans la main de sa splendeur, vive et pure, éclairant votre chemin à travers la nuit obscure. Oh, de ce divin flambeau, Seigneur, sur notre carrière, chaque jour, jusqu'au tombeau, faire rayonner la lumière. C'est un grain de sénévé que l'Esprit de Dieu féconde, car à peine a-t-il levé qu'il envahit tout le monde. Que le moindre grain planté de la divine semence ici pour l'éternité fructifie en abondance. Ce programme de méditation biblique vous a été offert par Jacques Marchal, qui vous l'a présenté. Mais qui sommes-nous? Les chrétiens qui ne portent pas d'autre nom, ils ne sont rattachés ni à une organisation centrale, ni à une secte quelconque. Notre unique règle de foi est surtout le Nouveau Testament. Notre unique chef, Jésus-Christ, seul ses enseignements et ceux des apôtres font autorité dans nos vies. Nous parlons de ce que la Bible dit et demeurons silencieux à propos de ce qu'elle ne dit pas. Faites-moi part de vos idées, de vos suggestions sur ce que vous venez d'entendre, et je vous répondrai personnellement. Le texte de cette émission est à votre disposition, sans engagement. Écrivez à Jacques Marchal, Méditation biblique, boîte postale 2398, 31086, Toulouse CEDEX, je répète, Jacques Marchal, Méditation biblique, boîte postale 2398, 31086, Toulouse, CEDEX, France. Au revoir. À la semaine prochaine, même heure. Et que le Seigneur vous garde.